Lyon, le top de la pop.
Passé de quelques minutes, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Voici La Vie de Lyon, votre magazine d'information locale. On est dans Lyon ce soir, c'est coup de projecteur sur le petit village de Trinquelin. On n'est pas très loin de Carré-les-Tombes et je suis très très heureux d'accueillir Bernard Berryer. Bonsoir Bernard.
Bonsoir et bonsoir à tous.
Alors Bernard Berryer, dans le pays de Carré-les-Tombes et dans le grand pays avalonnais, on connaît Bernard Berryer et les confitures de la Trinquelinette, parce que c'est de cette aventure artisanale dont on va parler ce soir avec toi, Bernard. Tu sais, La Vie de Lyon, c'est l'émission qui met en valeur les actrices et les acteurs de la vie économique, politique, culturelle, associative. Et avec toi, c'est la vie économique, parce que l'histoire de la Trinquelinette, donc... ta petite, ce qui était au départ une petite entreprise de production de confitures, a acquis une notoriété qui dépasse les frontières du département de Lyon, Bernard.
Oui, oui, j'en suis conscient. Et bon, c'est tout est arrivé finalement complètement par hasard, parce que je me suis installé. Enfin, je vais dire, je suis né en 1951 à Trinquelin, mon village. J'avais des parents qui étaient agriculteurs, qui faisaient un petit peu d'élevage. Enfin, on était, je dirais, plutôt assez pauvres. On vivait plus ou moins en autarcie. On mangeait beaucoup les productions du jardin, les choses comme ça. Et bon, ça a été mon enfance. Après, quand je suis devenu adolescent, je n'avais qu'une idée en tête, finalement, c'était de partir en ville, parce que je pensais que la ville, c'était l'Eldorado, c'était quelque chose de fabuleux pour moi. Ce que j'ai fait quand je suis parti en fac à Dijon, hein. Et puis après, j'ai vécu 2 ans à Londres. Enfin, toute mon histoire finalement a commencé parce que je voulais revenir habiter dans mon village, parce que je me suis aperçu que la pêche à la truite, les champignons, la nature et tout me manquait terriblement dans les villes, et que j'étais finalement un gamin de la campagne, et j'étais pas du tout dans les villes.
Néanmoins, Bernard, tu m'as confié qu'à l'âge de 10-11 ans, tu faisais les foins avec ton père. Et tu m'as dit que tu avais tout de même, à cet âge-là, une détestation du monde agricole et du métier de celui qui travaillait la terre.
Ah ben je détestais, parce que moi, on me demandait à 11 ans de faire le travail d'un adulte. Et j'en étais complètement incapable, en fait. Et donc, travailler avec mon père, c'était une horreur, parce que... j'entendais toujours dire que j'étais utile à rien. C'était l'expression des parents, parce que on faisait les foins, c'était des petits ballots à l'époque, mais pour un gamin de 11 ans, charger des ballots de foin sur un chariot pour les rentrer, pour conduire le tracteur et tout ça, je m'y prenais toujours mal. Et puis j'avais peur également de mal faire. Donc ça me, comme quand on a peur, finalement ça nous limite nos moyens, et donc je détestais tous les travaux de la terre. Et puis en plus, c'était à cette époque, les autres gamins qui étaient à l'école avec moi, ils jouaient dans le village, alors que moi il fallait que j'aille travailler avec mon père, quoi. C'était comme ça à l'époque. Je manquais même les dernières journées d'école ou dernière semaine à l'école primaire pour commencer les foins avec mon père. Et Donc j'avais vraiment ça en horreur. Et ce qui est vraiment terrible, quand j'ai voulu revenir habiter dans mon village à Trinquelin, je pensais pas du tout faire des travaux de la terre. J'ai cherché du travail, j'ai même fait une formation pour adultes à côté de Dijon, électricité bâtiment, pour essayer de trouver un travail, parce qu'à la NPE, il m'avait dit, voilà, quand je suis revenu d'Angleterre, j'avais pas de droit au chômage, et je cherchais absolument du travail. Et donc, il m'avait dit, ça serait mieux d'avoir un métier, puisque j'avais fait des études de droit que j'ai jamais terminées, mais en fait, j'avais aucun diplôme et aucune qualification. Et quand j'ai eu fini cette formation, d'abord le bâtiment, ça me plaisait pas du tout, déjà. Et en plus, je trouvais pas plus de travail. Donc c'est là où j'ai eu l'idée, comme mes parents avaient divorcé entre temps, mais ma mère avait une petite surface de terre, et je me suis pris une passion pour les fraisiers, pour la fraise. Et je cultivais des fraises dans mon jardin, et donc je me suis dit, bon ben je vais m'installer sur cette surface pour produire des fraises. Et donc en 78, j'ai commencé à cultiver des fraises en bio, que je vendais pour les magasins La Vie Claire. Bon, là, je fais peut-être de la pub, mais bon.
Légèrement,
voilà.
C'est de l'information.
C'est de l'information. Enfin, c'était. Et puis, différents grossistes à Rungis, parce que je réussissais quand même à récolter jusqu'à une tonne de fraises par jour.
Une tonne?
Ah, ouais. Bah, j'avais 60 000 pieds, j'avais planté 60 000 pieds de fraisiers. Et j'avais. Je faisais des petits fruits. J'avais un peu de cassis, de groseille et de la framboise également. Et bon, c'était une catastrophe au niveau économique, parce que j'avais emprunté pour m'installer. Et puis au bout de ça, c'était en 78, quand on est arrivé en 82, j'arrivais plus à rembourser le crédit agricole, et j'arrivais plus à donc j'ai réfléchi et je me suis dit, soit je laisse tomber, je repars avec en ville, ce que je voulais pas du tout, avec des dettes, ou soit j'essaye de trouver quelque chose. Et donc il y a eu un petit peu par hasard les premières confitures en 82, parce que je voulais valoriser un petit peu ma production, et surtout avoir quelque chose à vendre en hiver, parce que j'avais des revenus que sur l'été finalement.
Alors Bernard, on va marquer un premier temps de pause musicale. On se retrouve avec toi donc dans la vie de Lyon ce soir sur Radio Lyon. C'est Bernard Berryer qui est avec nous, le créateur des confitures de la Trinquelinette, la Trinquelinette calquée sur le nom du village de Trinquelin, qui se trouve à 3-4 km de Carré-les-Tombes, au sud du département de Lyon. On revient avec toi Bernard juste après la pause musicale que nous proposons à nos auditrices.
Le top de la pop, le top de la pop, c'est sur Radion.
Avec Bernard Berryer de La Trinclinette, les célèbres. Oui, j'ose le dire, je crois quand même, elles sont connues, ces confitures de La Trinclinette, Bernard.
Oui, elles sont. Enfin, elles sont. Je dirais qu'au niveau de la presse, au niveau des milieux gastronomiques, on est considéré comme. Dans les meilleurs fabricants de confitures.
Alors, on revient un petit peu sur ton parcours. Tu es allé un petit peu vite. Bon, je voudrais qu'on revienne déjà sur l'adolescent. On a bien compris que tu as vécu à Trinclin, donc tout de même milieu très rural, prisonnier du travail des champs avec un père exigeant qui, à l'âge de 11 ans, pensait que tu pouvais fournir le travail adulte. On a bien compris cela. Tu suis une scolarité collège-lycée. Mais au lycée d'Avallon, tu es viré du lycée d'Avallon.
Oui, j'ai été viré du lycée d'Avallon à la fin de ma première.
Voilà. Et pourquoi donc ?
Oh, parce que j'étais un contestataire. On avait fait plusieurs grèves. On avait. J'ai jamais su exactement le pourquoi. Et puis on était plutôt. Je dirais que j'étais plutôt un agitateur à l'époque.
Et on est en 68 alors.
On était en. En 69, c'était juste après 68. Et donc, j'étais content de plus aller au lycée.
Et les parents, comment ont-ils vu cela ?
Bah, ils ont pas. Mes parents étaient divorcés là quand j'ai. Et puis ma mère a pas pris ça plus mal que ça. Donc j'étais content de pas avoir retourné au lycée. Mais quand est arrivé le mois de septembre, j'ai réalisé que c'était pas aussi marrant que ça, parce que tous mes copains étaient au lycée, travaillaient, et puis moi j'étais finalement tout seul dans le village et j'avais pas grand chose à faire. Donc j'ai travaillé, c'était à l'époque où on pouvait il y avait du travail dans les stations-service où on servait l'essence. Donc j'ai travaillé sur l'autoroute à 10 différents différents moments, mais en, bon, j'ai réalisé en même temps que c'était pas vraiment un avenir pour moi, et donc je me suis inscrit au bac en candidat libre, et là c'est vrai que tout ce que finalement je réussis dans ma vie, c'est quand je l'ai vraiment décidé et quand j'ai du mal à apprendre de, j'apprends moi-même finalement. J'ai du mal à apprendre ou à accepter, c'est peut-être, je sais pas, peut-être une fierté ou je sais pas quoi, d'accepter, d'apprendre de quelqu'un d'autre. Et je suis à peu près persuadé que si j'avais fait une terminale, j'aurais peut-être pas eu mon bac, parce que j'aurais pas travaillé de la même manière et tout. Là, je travaillais à côté. J'ai commencé à faire le programme du bac un mois avant le bac, parce que je m'étais même plus rappelé, je m'étais inscrit. Et puis finalement, j'ai eu mon bac. Sans mention, hein, je vous rassure, mais j'ai eu mon bac.
Tu décroches le baccalauréat. Et ensuite, tu pars à Dijon. Là, t'es content, c'est la,
je pars en fac, voilà.
Tu pars en fac de droit. Et tu m'as dit que, finalement, à cet âge-là, donc tu as 18-19 ans.
Voilà, c'est ça.
Tu aurais aimé être avocat, mais pour être l'avocat de certaines causes bien particulières.
Ah oui, 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 parce que j'ai toujours eu ce côté un peu, je vais pas dire révolutionnaire, mais je veux dire, même maintenant, il y a tellement de causes à défendre, et j'étais parti un petit peu dans cette idée que j'ai toujours eu, je pense, un petit peu dans ma vie, ce besoin d'être utile à quelqu'un, de servir finalement à quelque chose, donc j'ai commencé des études de droit, mais
c'était par conviction, ces études de droit.
C'était pour servir des grandes causes, je dirais, mais finalement j'ai pas eu c'était pénible, et j'ai pas eu le courage de continuer.
Néanmoins, tu te décris comme un écolo pétri de justice, ça on l'a bien compris, mais un écolo.
Oui.
C'est quoi être écolo à 19-20 ans, c'est-à-dire quand même dans les années 70, quoi, on va dire extrême fin des années 60, début des années 70.
C'est déjà respecter la nature. C'est j'ai une fille de 20 ans, j'ai essayé de lui inculquer de respecter la vie, les êtres humains, les animaux, de ne pas faire de choses qui pourraient nuire à la santé, de respecter les choses pour les transmettre dans le même état qu'on les a trouvées, ou voire même mieux, parce que j'ai toujours été un peu mené par ça.
Tu as toujours ces préoccupations écologistes?
Ah, j'ai toujours, et je fais toujours, je veux dire, dans la fabrication, quand je fabrique les confitures et tout, nous les confitures, on ne communique pas du tout sur le bio, on n'a pas de mention, parce que je ne veux pas payer des choses, mais j'achète des fruits relativement chers, parce qu'ils sont bio, non traités, ou quand j'arrive pas à trouver, comme pour les cerises en l'occurrence, de la cerise bio dans la variété que je veux, j'essaye d'avoir une agriculture raisonnée, qui soit traitée le moins possible, c'est-à-dire que j'essaye de faire manger aux gens, à tous mes clients, ce que moi je mange, et pas dire oh ben là ça va être un peu moins cher, donc on peut y aller là-dessus, et puis voilà. Moi je consomme ce que je produis, alors que j'avais quand j'ai commencé à cultiver les fraises, comme j'avais aucune qualification agricole, j'ai fait un brevet professionnel agricole en formation pour adultes à côté de Grenoble. Et on visitait, j'étais profondément choqué parce qu'on a visité des fermes, en l'occurrence des élevages de ce qu'ils appelaient de veaux, des bébés pour... Et l'agriculteur disait « Ah ben ça c'est pour les cantines scolaires, mais nous on s'en élève un pour nous, un ou deux correctement. » Et le fait de pas manger ce que l'on produit, ça m'a terriblement choqué.
Le message est clair. Bernard, on marque une nouvelle petite pause musicale. Tu es un grand bavard, tu en as conscience.
Ah oui, oui, non, je suis toujours très bavard.
Tout le monde sait que Bernard est un grand bavard, en tout cas. Ce n'est pas qu'un bavard, c'est aussi un gourmand, c'est un homme qui s'est battu, qui a bâti une trinclinette. Est-ce que c'était un artisan? C'est un artisanat de
culture. Oui, je suis un artisan et j'y tiens. Mais c'est vrai, je suis très bavard. Des fois, on me dit même que je suis fatigant.
Oh non.
Le top de la pop. Le top de la pop. C'est sur Radion. Radion. House. After House.
21h, tous les samedis, les meilleurs DJ de la French Touch et internationaux prennent les commandes de Radion. Antoine Clamaran.
Antoine Clamaran.
Sébastien King.
Sébastien King.
Roger Sanchez.
Roger Sanchez.
Sylvain Diems.
Sylvain Diems.
Laurent Chat.
Laurent Chat.
David Vendetta.
David Vendetta.
Pierre de Castel.
Pierre de Castel.
Et des special guests. Ils se donnent rendez-vous le samedi soir sur Radion dès 21h. After House.
After House.
Et vous, vous faites quoi samedi?
Et je repense encore au match d'hier soir, du grand n'importe quoi, et à tous les niveaux. Déjà, c'est quoi ce dispositif? En 3-5-2, il fallait jouer en 4-3-3. Enfin, pour ça, il fallait encore avoir des attaquants. Entre le milieu de terrain, avec les pieds carrés, les ailiers qui plantent la tente, je parle pas des défenseurs qui vont à 2 à l'heure.
Et dire que pour 12 euros seulement, vous faisiez Dijon-Paris en TER. Les bons plans du TER en Bourgogne-Franche-Comté, ce sont des billets à 2, 5 ou 12 euros à destination de toutes les gares de la région et même vers Paris. Et ça, c'est pas du blabla. Billets en vente sur Internet, dans la limite des places disponibles.
Et l'arbitrage? Parlons-en de l'arbitrage.
Avec Radion,
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 développons les commerces de notre région.
Consommons,
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 consommons.
Près de chez nous. Radion.
Devant les micros de la ville de Lyon ce soir sur votre radio locale avec Bernard Berryer des confitures de la Trinquelinette. Hein. Là, c'est le sud du département qui est mis en valeur ce soir avec notre invité. Bernard, en septembre 1972, tu as 21 ans. Tu pars en Grande-Bretagne et tu t'installes à Londres avec une jeune femme.
Oui, j'avais rencontré Dominique et elle était quand j'étais à Dijon et elle faisait une licence d'anglais. Et elle est partie comme lectrice de français à Londres. Et moi, j'étais amoureux. Et deuxièmement, j'étais très attiré par l'Angleterre et par Londres en particulier, parce que j'ai toujours adoré la musique. Et donc, c'est vrai que c'était des années en Angleterre où qu'était particulièrement créative au niveau musical. Et voilà, j'y suis allé également et peut-être principalement pour la musique. J'ai jamais joué d'instrument, ce qui est peut-être un tort, parce que il y avait des gens qui ont joué tellement bien que je me disais c'est pas la peine. Mais j'ai rencontré plein de gens là-bas. J'étais copain avec Gary Moore, un guitariste. J'ai vu des groupes comme Genesis dans des petites salles de 700-800 personnes. J'ai vu les Queen tout à fait à leur début aussi. Ça a été une période assez fabuleuse de ma vie. Et ça m'a manqué après, c'est les concerts, la musique. Bon, c'est vrai que maintenant, d'abord, il n'y a plus la même scène musicale, mais c'est vrai qu'il m'arrive fréquemment, et ça c'est un pur bonheur, d'aller à Bercy, ou même on est allé voir Springsteen à Barcelone avec ma fille qui va avoir 20 ans. Oui, en mai dernier, on est allé voir Bruce Springsteen à Barcelone, et c'était un pur moment de bonheur avec ma fille qui a 19 ans, et où on peut partager des moments comme ça ensemble.
Alors, en Grande-Bretagne, pendant ces 2 ans avec Dominique, bon, tu as fait différents petits boulots, enfin, tu as appris ce que tu trouvais, ce n'est pas facile.
J'ai fait des petits boulots, en fait, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai eu un travail où j'étais pas déclaré, ça compte pas pour ma retraite, mais j'ai passé 2 ans et j'ai rencontré quelqu'un qui avait une entreprise de nettoyage, et je l'ai rencontré dans un pub un soir, Et il avait des problèmes, il avait un hôtel à Richmond, qui est un petit peu à l'extérieur de Londres, un grand hôtel où il y avait 200 chambres, et son entreprise faisait les chambres et tout le nettoyage. Et il passait un temps fou, parce qu'il y avait un certain nombre, une dizaine d'employés, qui y en avait toujours qui manquaient à répartir, et donc il m'a proposé de d'être en charge et de m'occuper de tout ce qui se passait dans cet hôtel. Et donc c'était pas passionnant, mais c'était sympa parce que j'avais des relations avec avec les clients, hein. Il y avait des clients qui étaient même en permanence, et finalement, je travaillais 4 heures le matin et j'avais un salaire à peu près normal. Parce qu'il y a eu un moment, je me suis dit, oh, je vais arrêter ça, je vais essayer de trouver autre chose. Et je me suis aperçu que j'aurais fait une journée complète de travail pour gagner la même chose. Donc j'ai continué à faire ce petit travail, je dirais.
Parallèlement au salaire assez correct, un honorable niveau d'anglais ?
Honorable, oui, parce que et ça me sert maintenant, parce qu'on a des clients, on a 3 clients aux États-Unis, on a 6 clients à Londres, et puis on a des clients en Suisse où on communique en anglais. Donc c'est finalement faire des confitures à Trinquelin dans un petit village du Morvan, c'est quasiment indispensable de maîtriser plus ou moins l'anglais.
Alors, après les 2 ans en Grande-Bretagne, retour effectivement dans le Morvan, retour à Trinquelin, où là, effectivement, tu adores les cultures et surtout la culture de fraises. Mais on en parlera peut-être après la pause musicale, parce que je dirais que la fraise et Bernard Berryer, c'est une grande histoire d'amour.
Ah oui, ah oui.
Tu es prêt à tout nous dire sur la fraise.
Ça a été une passion.
Le top de la pop, le top de la pop, c'est sur Radion. Radion.
Ton sac n'est pas si lourd, le temps d'un aller-retour. Compagnon de route, marchons, marchons. Et si le sable marque nos pas, alors on nous trouvera. Compagnon de route, marchons, marchons. Vers l'Eldorado de Mexico. And it's time to go, go, go. On this sunny afternoon, it's time to show, show, show. The world is straight on. Et du matin jusqu'au soir, des étés qui finissent tard. Compagnon de route, marchons, marchons. Si le blues vient s'immiscer, nous chanterons pour l'apprivoiser. Compagnon de route, chantons, chantons. Vers l'Eldorado de Mexico. And it's time to go, go, go. On this sunny afternoon, it's time to show, show, show. The world is straight on. It's time to show, show, show. The world is straight, only carries two. It's for me and you. Go, go, go a Mexico. Go, go, go a Mexico. It's time to go, go, go on this sunny afternoon. It's time to show, show, show. The world is straight, only carries two. It's time to go, go, go on this sunny afternoon. It's time to show, show, show. The world is straight, only carries two. It's for me and go, go, go on this sunny afternoon. It's time to show, show, show. The world is straight, only carries two. It's time to go, go, go on Mexico. Go, 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 Mexico.
Radion, le top de la pop.
Notre invité est un passionné alors, de fraises et de confiture, mais ce sont les fraises qui ont conduit Bernard Berryer de la Trinquelinette à la confiture. Bernard, je disais un peu par plaisanterie avant la pause musicale que les fraises et toi, c'était une histoire d'amour.
Ah, tout à fait, parce que j'ai été... Bon, c'est un petit peu comme, finalement, tout ce que je fais. J'ai des moments où je suis passionné pour quelque chose et j'essaye de creuser vraiment à fond et de connaître le sujet pour finalement faire le travail le mieux possible et c'est vrai qu'avec des superbes récoltes de fraises et tout j'ai obtenu des satisfactions absolument énormes mais la fraise je me rappelle d'entrevues, ça m'a fait rencontrer des gens, d'une personne, Mademoiselle Richter, qui travaillait à l'INRA à Montfavet, à côté d'Avignon, là-bas dans le sud, où je suis allé la voir X fois et j'étais en communication avec elle parce que c'était une grande spécialiste de la fraise et c'est elle qui avait obtenu la Garrigette, une fraise très connue. Et au début des années 80, cette fraise était très peu cultivée finalement. Et puis maintenant, c'est une variété de fraises que tout le monde connaît et qu'on retrouve dans tous les magasins, mais ça a mis très longtemps. Et donc, le truc, c'était finalement de creuser le cycle végétal de la fraise, qui est un petit peu... La fraise, finalement, c'est un arbre, ça a le même cycle, sauf que ça n'a pas de branches, mais ça perd ses feuilles en automne, comme les arbres, et ça a un cycle de dormance, de levée de dormance, de choses comme ça qui sont assez complexes, mais que j'ai voulu absolument creuser pour maîtriser au mieux la production, savoir quand il fallait arroser, quand il fallait faire souffrir un peu plus la plante pour avoir plus de fleurs ou plus de voilà. Et donc ça a été, et la fraise c'est toujours un fruit et une plante que j'adore.
Mais la culture de la fraise reste néanmoins compliqué.
Ah, c'est très compliqué parce que c'était quelque chose, je le referai pas, parce que c'est une histoire de fou, hein, surtout qu'à l'époque je vendais tout en barquette. Et quand je voyais en Dordogne et tout, parce que j'allais voir, je connaissais des producteurs, mais eux, ils menaient ça à la coopérative ou chez un expéditeur qui se débrouillait de les vendre. Moi, ici, j'étais tout seul. Alors, il suffisait qu'il y ait une journée, des journées orageuses où ça mûrissait énormément. J'avais énormément de fraises à vendre. On avait du mal à réussir à tout cueillir. Et puis après, la semaine suivante, ça arrive au mois de juin, il faisait mauvais avec 14 ou 15 degrés et j'arrivais pas à avoir assez de fraises pour mes clients. C'était un casse-tête, une histoire de fou. Et moi, il n'y a pas de camion qui monte du Morvan sur Rungis, je cueillais les fraises, on préparait. Et la nuit, je montais avec mon propre véhicule pour livrer les fraises à Rungis. Et c'était une période où je terminais au bout d'un mois, un mois et demi, j'étais complètement épuisé.
Alors tu n'as pas fait que de la fraise, tu faisais aussi des haricots verts, des petits...
Oui, j'ai fait aussi un petit peu de légumes, c'est-à-dire que je m'arrangeais pour avoir des petits pois qui récoltaient quand je commençais à avoir moins de fraises, à la fin des cueillettes de fraises, j'avais les petits pois. Je m'arrangeais toujours pour faire un voyage le plus complet possible quand je montais à Rungis pour des histoires de rentabilité. Et j'ai fait des haricots verts, j'ai fait des choses où il y avait des cueillettes et pas les choses les plus faciles, obligatoirement.
Et dans le village, on te regardait avec respect, avec amusement.
C'est-à-dire quand je suis arrivé pour faire ça, ça a fait rigoler un peu tout le monde, hein, en se disant ils se rendent pas compte de ce que c'est que les cultures et le travail. Et puis au bout de quelques temps, quand ils ont vu le travail que je faisais et tout, finalement ils ont arrêté de rigoler. Et puis ça a plutôt été du respect, en me disant parce qu'ils ont pris conscience de tout le mal que je pouvais me donner pour parce que le maraîchage ou les cultures comme ça, c'est quand même énormément de travail, c'est aussi des positions baissées et tout, c'est comme la vigne, c'est physiquement c'est pas toujours c'est plutôt assez dur, hein. Après on a mal au dos
Le top de la pop, le top de la pop, c'est sur Radion.
What is all around? I'm growing tired of fighting. I've been dreamed and I can't hide it, but I've a strength for you. You're all that's real anymore. I am coming home now. I need your comfort from this
Pop, c'est sur Radion.
On a bien compris. compris que les fraises étaient rentrées dans votre vie, dans ta vie. Toi, je te vous vois d'un seul coup, alors que j'ai commencé l'émission en te tutoyant. Toi, voilà. Le respect de l'homme qui cultive les fraises. Et dans ce petit village de Trinquelin, on est à quelle altitude, là, à Trinquelin, à côté de Carré-les-Tombes?
Trinquelin, on est dans le fond de la vallée, on est à 400 mètres ici.
Et alors, en 1982, alors là, grosse catastrophe, parce qu'un gel terrible.
Oui, il y a eu du gel, c'est-à-dire que, ben, c'est comme un peu partout, on essaye de mettre les cultures de fraises plus ou moins en altitude. J'en avais pas dans le fond de la vallée, parce que l'air froid descend et c'est beaucoup plus gélif dans le fond des vallées que sur les hauteurs. Mais cette année-là, il y a fait très froid, c'est au printemps, il y a eu une année de gel. Où finalement j'avais une toute petite récolte, mais vraiment minuscule. Et donc, comme j'avais déjà des problèmes financiers, ben, je ne voyais pas bien comment j'allais réussir à m'en tirer. Donc, j'ai eu l'idée de commencer, de valoriser plus cette petite récolte. Et j'ai commencé à faire les premières confitures en 82. J'avais aucune idée, finalement, enfin si j'avais une idée, je savais qu'il fallait mettre des fruits et du sucre, mais j'avais pas de recette particulière. Et le pire de tout, c'est que chaque fois j'avais fait des confitures pour moi-même, ben, j'avais des problèmes de conservation. Alors je me suis dit, bon, ben, on va quand même essayer de se lancer. Mais les premières confitures, je les ai faites au mois de juin, mais j'ai attendu le mois de novembre pour les vendre, pour commencer à les vendre, pour voir si elles s'abîmaient, ou c'est pour être sûr de vendre un produit où il n'y ait pas de problème, quoi. Parce que les confitures, si elles doivent s'abîmer, si c'est mal fermé, qu'il y a mal capsulé ou qu'il y a une chose, ça finalement, si le pot est ouvert, ça s'abîme très très vite.
C'est aussi de la chimie d'une certaine manière. Un petit peu.
Oui, parce que c'est, je dirais, les confitures, c'est un petit peu des mélanges. Il y a des réactions avec la pectine, le sucre, l'acidité. Je dirais que c'est relativement complexe. Mais j'ai pas voulu prendre ou chercher à savoir comment les autres et les gens faisaient des confitures. J'ai acheté à l'époque un petit bouquin que j'ai toujours, qui est ma Bible, qui était fait par le comité interprofessionnel des fruits et légumes, et un petit bouquin qui s'appelle « Transformation artisanale des petits fruits ». Et on donne pas de recettes dans ce livre, mais on explique le process, je dirais, qu'est-ce qui se passe avec le sucre, avec la pectine et tout. Et donc j'ai essayé de comprendre les différentes réactions. Bon, c'est compliqué, je dis pas que j'ai tout compris, mais bon, j'ai réussi à faire des confitures avec ce petit bouquin. Et puis bon, c'est vrai qu'après, d'année en année,
le top de la pop, le top de la pop, c'est sur Radion. Radion.
I believe what I take for love. this part.
Radion.
Toujours très bon, la confiture. Ce soir sur Radion, nous sommes avec Bernard Berryer, des confitures de la Trinclinette, établie donc à Trinclin. Hein. C'est une commune indépendante ou c'est un hameau de Carré-les-Tombes, j'ai un doute.
On dit toujours Carré-les-Tombes, mais c'est un hameau de Saint-Léger-Vauban.
De Saint-Léger-Vauban, voilà. Précisément. D'accord.
C'est un petit village, hein, on est une bonne trentaine d'habitants, hein, c'est tout.
C'est un tout petit village.
C'est un tout petit village.
Un micro-village.
Oui, oui.
Et ce soir, donc, avec nous, c'est Bernard, qui est né donc, dans ce petit village, qui y habite et qui a créé une entreprise. Alors, on en parlera surtout dans l'entretien de jeudi prochain à 19h. Quand tu commences cet artisanat de la confiture, grâce à la fraise, on l'aura bien compris, tu débutes avec du matériel, je dirais, de base.
Oui, c'est-à-dire que je suis allé chez un fournisseur pour restauration collectivité et j'avais acheté deux fait-tout finalement, si j'avais même pas des bassines à confiture et deux trépieds à gaz et puis une louche pour la mise en pot et puis j'ai commencé comme ça quoi, c'est-à-dire la première année on a dû avoir une production d'à peu près 2500 pots de confiture hein, qui se sont très bien vendus et finalement assez rapidement, ce qui m'a donné l'idée d'en faire plus et puis d'améliorer et puis ça a été le début un petit peu de cette aventure, je dirais.
Alors qu'à l'heure actuelle, on est à 200 000 pots par année.
Oui.
C'est bien cela,
ouais.
Bernard.
Ben, ça a augmenté finalement régulièrement et ça continue à augmenter dans des proportions plus faibles, évidemment, parce que on est quand même limité, étant une entreprise artisanale, et on est limité dans la fourniture de fruits de qualité. J'ai des producteurs, mais bon, c'est pas toujours évident. Et puis, on est limité aussi du fait qu'on soit artisanal, on n'a pas des cadences de production énormes et donc on est obligé de limiter notre production.
Retenons tout de même la Trinclinette à l'heure actuelle, 200 000 pots de confiture, 26 parfums. Tu es à l'heure actuelle encore sollicité par un grand nombre de personnes qui, aux quatre coins de la France, tout comme toi, veulent se lancer dans l'aventure, j'allais dire, confiturière.
Oui,
tu
oui.
Partages volontiers.
Je partage volontiers, bien que je trouve que c'est finalement un peu ridicule. Moi, j'ai jamais, quand je veux faire quelque chose, je ne cherche jamais à savoir comment le voisin ou comment les autres font. Parce que ça limite la créativité. Je dirais, moi, j'ai une manière de faire des confitures qui m'est assez personnelle et c'est pour ça que ça fonctionne. Parce qu'avec très peu de cuisson, peu de sucre. Je pense que si j'étais allé voir comment quelqu'un d'autre faisait, ben j'aurais peut-être copié plus ou moins et sûrement moins bien ce qu'il faisait et j'aurais peut-être pas le produit que l'on a actuellement.
En tout cas, tu partages volontiers. Tu n'es pas celui qui garde jalousement des secrets de fabrication.
Non. Je donne éventuellement des astuces de fabrication ou des choses comme ça parce qu'il y a des choses que j'ai trouvées avec le temps et j'en trouve encore pour améliorer la qualité. Et puis j'arrive encore à trouver des choses qui quand je les ai trouvées, ça me semble évident, mais je les avais pas avant. Voilà. Donc alors, on apprend toujours.
Il va bientôt être 20h sur Radion. On va devoir se quitter. On se retrouve donc jeudi prochain à 19h, toujours sur Radion. Tu connais la fréquence de Radion maintenant ? 90.5. Tu m'as dit que tu l'écoutais.
Ah, je l'écoute. Je l'ai dans mon véhicule. Voilà.
Très bien, Bernard. Et puis bien sûr.
Mais c'est, je connais pas la fréquence parce que c'est programmé. Je dois taper 5 et j'ai Radion.
Ah bah très bien. Voilà. 90.5. Et puis bien sûr, on nous écoute par internet aux quatre coins du département, de la Bourgogne et peut-être de France, sur le www.radion.fr. On vous donne rendez-vous donc ce jeudi prochain à 19h pour écouter Bernard Berryer nous raconter les débuts de la Trinquelinette. On vous souhaite une très bonne soirée. Bonne soirée Bernard, et à jeudi. 19h.
Très bonne soirée à tout le monde et puis à jeudi.
Au revoir, voilà. À toutes et à tous.
Au revoir.
Radion.